Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif. Nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous êtes en direct avec nous sur le 88.4 pour votre émission Marmite fait son actu en direct donc jusqu'à 18h pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Avec notre invité du jour, Tantoine Nguyen, président de l'association Res Communa, il nous présentera la conférence organisée par son association vendredi, donc le vendredi 28 juin à 19h au bar-restaurant Le Marina à Saint-Quentin-en-Yvelines sur le thème de la crise catalane. Nous en profiterons bien sûr pour commenter avec lui les résultats des européennes. Dans Marmite Actu, vous retrouverez bien sûr vos chroniques préférées avec le cinéma de Cindy qui est allé voir le film Aladdin, qui vous dira ce qu'elle en a pensé, l'actualité du cinéma Le Grenier à sel avec Gaëlle, la consommation responsable pardon avec Chloé, le flash d'actu local à 17h30 et l'agenda culturel et sportif en fin d'émission avec Shaima. On ne change pas d'habitude bien sûr, on commence cette émission en musique avec Abou et son titre Diarabi. On se retrouve juste après pour parler de cinéma bien sûr.
Coulez, 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 co
Marmite FM 88.4, 17h passé de 5 minutes à bout avec le titre Jarabi. C'est de la free pop, bien sûr, artistes locales qui sont mis toujours en avant sur le 88.4. Allez, on commence cette émission, on parle bien sûr cinéma.
L'actualité du cinéma, le grenier à sel avec Gaël.
Ça c'est du jingle. Ça va Gaël?
Bonjour Nouradine.
Bonjour Gaël. Oui alors Gaël, comme chaque semaine, tu nous présentes l'actualité du cinéma Le Grenier à sel et puis la programmation.
Bah oui, comme chaque semaine, le cinéma est fermé en journée jusqu'à fin juin. Donc ça change pas. On reste jusqu'à fin juin. Je peux pas vous donner l'actualité de tout ce qui se passe forcément au Grenier à sel, mais je peux vous dire que les travaux de l'Étoile d'Or avancent bien. Hein. Là, ils sont en train de changer la toiture.
Ouais.
Du coup, ça nous bloque même la rue piétonne. Ça nous a bloqué la rue piétonne aujourd'hui. C'est pas très grave puisque on était prévenu de tous ces travaux et donc il y a pas de séance en journée. Les séances reprennent à 18h en semaine et les séances sont tout à fait normales en week-end. Alors qu'est-ce que vous pouvez voir au Grenier à sel? On peut voir Aladdin, la version live du film d'animation de Disney. Qui
justement, c'est la critique de Cindy qu'on va repasser tout à l'heure.
Et c'était la critique qu'elle a fait la semaine dernière.
Ouais, et qu'on va repasser justement.
Très bien. Bah du coup, qu'est-ce que je peux dire sur ce film?
Non, vas-y, tu peux dire ce que tu veux. Vas-y.
Que le génie qui était porté par Robin Williams
et porté maintenant par
Will Smith. Will Smith, tout en bleu, tout de bleu déguisé, décoré. Et donc, bah, j'en dis pas plus. On est dans la mode de Disney qui ressort un peu tous ces grands films en version live action, donc avec des personnages réels. Ou en tout cas plus des décors réels, etc. Il y a eu Dumbo, il y aura le Roi Lion bientôt, il y a encore pas mal de choses à venir. Nous avons deux autres films cette semaine, donc à part Aladdin, que l'on gardera deux semaines. Donc si vous l'avez pas vu cette semaine, vous le pourrez le voir jusqu'au 25 juin. Donc les deux autres films, c'était des films qui étaient présentés au Festival de Cannes. Tout d'abord, il y a Sibyl qui était dans la compétition, mais qui n'a pas eu de prix particulier. Bon, je préviens quand même que quand on est en compétition au Festival de Cannes, c'est déjà un gage d'une certaine reconnaissance. Donc Sibyl, c'est un film français de Justine Strier avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel. Il y a un avertissement parce que quelques scènes peuvent heurter la sensibilité du public. Ça, c'est la petite phrase officielle qu'il faut, ouais. Il faut dire. Mmh. Je serais pas très professionnel si je le disais pas. Donc c'est Virginie Efira qui joue Sibyl. Sibyl, c'est une romancière qui arrête d'écrire et qui se reconvertit dans la psychanalyse. Et son désir d'écrire est toujours présent. Elle finit par quitter la plupart de ses patients, d'arrêter pour aller chercher l'inspiration. Et une de ses patientes, c'est Margot. Elle est actrice. Elle est en pleine détresse. Pourquoi ? Parce que elle est en plein tournage et elle est enceinte de l'acteur principal. Sauf que l'acteur principal, il est en couple avec avec la réalisatrice du film. Sibyl, voilà, c'est une super ambiance. Donc Sibyl, notre romancière reconvertie en psychanalyste, va réutiliser. En fait, elle est fascinée par cette actrice et par son histoire, et elle va un peu l'enregistrer et utiliser son histoire pour nourrir son roman. Alors, oui, je voyais que j'avais écrit comédie sur mon programme. Maintenant, il y a qui comédie dramatique, c'est les grands mots qu'on dit maintenant. On retrouve des actrices qui sont au meilleur de leur forme. Virginie Efira, de film en film, elle s'améliore et je sais pas jusqu'où elle pourra aller parce qu'elle commence à m'épater de plus en plus. Elle est plus à suivre, hein, mais elle a vraiment fait preuve de tout son talent. D'ailleurs, j'ai appris hier qu'elle venait de tourner dans un film avec Omar Sy qui s'appelle Police, où ils sont tous les deux des polices qui doivent reconduire un Iranien à la frontière, je crois.
D'accord. Voilà. Et c'est pour quand ça?
Et ça, c'est pour 2020.
2020. Ok.
Ouais, j'ai appris ça hier. Le troisième film, le dernier film de la semaine, c'est Le Jeune Ahmed. Celui-là aussi était au Festival de Cannes, mais celui-là, il a eu un prix. Il a eu le prix de la mise en scène. C'est un drame, hein, réalisé par Luc et Jean-Pierre Dardenne. Donc les frères Dardenne nous ont habitués à leur vision sociale, à leur travail sur leur intérêt pour pour la société contemporaine. Et là, on va suivre ce jeune Ahmed qui a 13 ans et qui est pris en étau entre les appels de la vie et les idéaux de pureté de son imam. Ça se passe en Belgique. Je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vraiment en dire beaucoup plus. Je dirais que vous pourrez vous en faire une opinion vous-même sur nos séances. Donc je vous invite à venir le découvrir chez nous. Vous retrouverez les horaires sur notre site cinemagreniersel.com. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.
Bah ouais, à la semaine prochaine. Merci Gaël. Donc cinemagreniersel.com. Bah tu restes avec nous pour réécouter ce qu'avait dit justement
Cindy sur Aladdin.
Cindy sur Aladdin. C'est parti.
Bah oui, parce que moi je voulais faire du cinéma.
Hasta la vista, baby.
Rosebud. Vers l'infini et au-delà.
Allô?
Salut, Cindy. Quel est ton film d'horreur préféré?
Bonjour à tous. J'ai toujours été une fan des dessins animés Disney. Pas au point de connaître les chansons par cœur. Mais quand même, j'adore en regarder encore maintenant. La Belle et la Bête, Pocahontas, Le Roi Lion, Les Aristochats, Blanche-Neige. Pourtant, j'ai jamais vraiment accroché avec Aladdin. Alors, quand j'ai su qu'on l'adaptait en film, je n'avais aucune envie de le voir. Mais bon, tout le monde autour de moi semblait emballé, notamment grâce à la présence de Will Smith en génie et de Guy Ritchie à la réalisation. Je me suis donc laissé convaincre et je ne suis pas déçue.
Une chance extraordinaire s'offre à toi. Je peux faire de toi un homme riche. Assez riche pour conquérir une princesse.
Dis-moi ce que je dois faire.
Il y a une caverne aux merveilles. Apporte-moi la lampe.
Côté histoire, bah c'est Aladdin quoi. Un jeune homme des rues qui vole pour survivre et qui rencontre par hasard la belle princesse Jasmine. Il fait appel au génie pour réaliser trois de ses vœux, dont celui de devenir prince pour conquérir sa belle. Ce qui va engendrer tout un tas de péripéties et se finir en happy end. Bah, pas de spoil, de ce côté-là, normalement, on est dans Disney. Hein. Et qui dit Disney, dit musique. On retrouve donc nos chansons préférées comme Ce rêve bleu, et c'est aussi l'occasion de se rendre compte, si on le voit en VO, que la traduction n'a rien à voir avec l'original. Et puis il y a l'ajout de chansons plus rappées, touche perso de l'acteur et chanteur Will Smith, qui de son propre aveu ne savait pas quoi ajouter à la performance de Robin Williams qui double le génie en anglais, jusqu'au moment où il a vu les chansons du génie. Les nouvelles chansons, comme celle de Jasmine, féministe, hashtag je suis une brune et je ne compte pas pour des prunes, sont très jolies. Pour ne pas bouder son plaisir, la qualité visuelle est au rendez-vous, les décors, les costumes, les prises de vue, tout est coloré, chatoyant, enivrant. C'est vraiment ce qui me revient en tête quand je pense au film. Les mille et une couleurs comme Ali Baba et ses voleurs. Les effets spéciaux sont aussi réunis, j'avais surtout peur pour Jenny, car ça aurait pu faire kitsch, mais ce n'est pas le cas. Will Smith s'en sort très bien, comme ses camarades que je n'avais jamais vus avant, Mena Massoud et Naomi Scott. Et petit conseil, parce qu'on se quitte toujours sur un petit conseil, allez voir La Belle et la Bête avec Emma Watson, que j'ai beaucoup apprécié aussi. C'est tout pour moi, à la semaine prochaine.
Merci Cindy, que l'on retrouve donc la semaine prochaine. Allez, on marque une seconde pause musicale sur le 88.4. On revient juste après avec notre invité. A tout de suite. Show la main sur les ondes de Marmite FM. You might need somebody. Il est 17h passé de 20 minutes. Et sans transition, nous accueillons l'invité de Marmite Actu.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Notre invité du jour, Tantoine Nguyen, bonjour.
Bonjour.
Membre de l'association Res Communa, avec nous pour nous présenter une conférence que vous allez, que vous organisez le vendredi 28 juin, donc à 19h au bar-restaurant Le Marina à Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous recevrez Christophe Barret, qui est un historien et un essayiste, auteur de l'ouvrage intitulé « La guerre de Catalogne » paru en 2018. Et le thème de son intervention, c'est les leçons de la crise catalane. Alors avant de parler de cet événement que vous organisez, vous pourriez nous rappeler l'objet de votre association Res Communa en quelques mots.
L'objet de notre association, donc, c'est d'organiser au niveau local des événements où on fait venir des auteurs, des intervenants, des historiens, des experts de leur discipline pour qu'ils puissent présenter leur exposé, leurs analyses, et puis il y a toujours un temps d'échange avec le public présent. Et donc voilà, c'est à la fois magistral et interactif. Voilà.
Alors pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu vos précédentes interventions, parce que vous êtes déjà venu à Marmite FM, alors Res Communa, nous on connaissait la Res Publica, République, mais quelle est la différence, quelle est la nuance entre Res Communa et Res Publica?
Alors la signification de Res Communa, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, ça veut dire... Ça peut faire référence à, disons, un principe démocratique qui serait appliqué dans des cadres plus restreints que celui d'un pays.
C'est vrai,
effectivement, dans le cadre d'une association, d'une entreprise, on peut pas vraiment parler d'une res publica, puisque l'objet et les finalités sont moindres. Par contre, on peut parler d'une chose commune, donc d'une res communa. Voilà, disons que c'est le sens principal.
Donc votre prochain rendez-vous, c'est une conférence sur le thème de la crise catalane. Présentez-nous l'intervenant en quelques mots et puis la thématique qui
Alors,
sera
Christophe
abordée.
Barret, Christophe Barret est un historien. Il a été auteur de plusieurs ouvrages. C'est un spécialiste de l'Espagne et il a été notamment en 2018 l'auteur d'un ouvrage sur la Catalogne. Et c'est pour ça que nous le recevons, parce que son analyse est très intéressante et elle dépasse même le cadre de la situation en Espagne. Voilà.
Alors justement, nous on entend parler de cette situation en Espagne par le biais de Manuel Valls, notre ancien premier ministre, voilà, qui est allé se frotter aux élections municipales à Barcelone. Alors de quoi s'agira-t-il exactement dans son intervention? Et puis alors, en quoi ça nous concerne, nous ici alors vous êtes à Plaisir, l'association est basée à Plaisir. En quoi ça nous concerne cette crise catalane?
Eh bien parce que la crise catalane, évidemment, elle a un contexte spécifique, qui est celui de l'Espagne, celui d'un mouvement indépendantiste, régionaliste, qui est le mouvement catalan. Mais à partir de cette situation-là, Christophe Barret, en fait, a tiré des leçons. Justement, c'est pour ça que l'intitulé de la conférence s'intitulait « Leçons de la crise catalane ». Des leçons que nous pouvons tirer parce que la situation en France l'appelle, voilà, par rapport aux différents concepts. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais l'articulation entre le concept de l'égalité, de légitimité, qu'est-ce qu'un mouvement populiste, etc., etc.
Il y a aussi des régionalismes en France, hein, ça n'aura échappé à personne.
Ah, tout à fait.
Entre la Bretagne, les Basques, la Corse.
Ouais, bien sûr.
Voilà, donc ça bien peut sûr avoir un écho également à ce niveau-là. Alors, vous êtes avant tout une association qui invite les citoyens à réfléchir sur des thématiques diverses, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Je vais donc vous poser quelques petites questions sur l'actualité.
Ouais.
D'abord, puisque nous sortons des élections européennes qui ont vu le Rassemblement National et La République En Marche qui portaient le nom de Renaissance. Voilà, c'était le nom qui représentait En Marche pour ces élections européennes. Donc, ces deux mouvements ont pris les deux premières places. Quelle est votre analyse du scrutin d'abord pour le président en place, c'est-à-dire Emmanuel Macron? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de positif pour le pouvoir en place ou de négatif? On a beaucoup commenté ça, en tout cas dans les médias, ça a beaucoup été commenté comme une défaite.
Alors, déjà en introduction, ce qu'il me semble devoir être dit, c'est que ces élections européennes ne comportaient aucun enjeu au sens où nous l'entendons traditionnellement.
Oui, c'est-à-dire?
Pour une raison très simple, c'est parce que le Parlement européen, qui est la seule institution européenne élue au suffrage universel, n'a strictement ou quasiment aucun pouvoir. Ce qui d'ailleurs en dit long sur ce qu'est l'Union européenne. Si on veut résumer, on dirait que le Parlement européen, c'est une chambre d'enregistrement qui est là pour apporter, si vous voulez, un semblant d'onction démocratique aux décisions de la Commission européenne, qui, elle, est une institution qui n'est élue par personne, et en tout cas pas par le peuple. Mmh. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est ça. Donc je dirais que les enjeux de cette élection étaient des enjeux d'abord de politique intérieure, qui consistaient en fait à se dessiner les rapports de force politiciens en France en vue de 2022. Mmh. Ça, c'est la première chose. Alors sur les résultats, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que alors La République En Marche et le Rassemblement National sont sortis vainqueurs de ces élections. Ils sont arrivés en tête. Alors
sur le nombre de députés européens.
Exactement. 23. Alors sur le Rassemblement National, très rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'absolu, si on analyse les résultats, on observe qu'il a fait plus de voix qu'en 2014. Mmh. Mais proportionnellement, par rapport au suffrage exprimé, il a réalisé un score qui était un tout petit peu moindre. Toutefois, on peut quand même considérer que c'est une victoire pour le Rassemblement national parce qu'il a réussi à défendre son territoire électoral à la fois contre les assauts des Républicains, contre également les assauts de Debout la France et aussi de Mélenchon. Donc ça, on peut dire déjà, c'est une victoire pour lui. Pour La République En Marche, contrairement à ce qui a été dit dans les grands médias et avec quoi je suis en désaccord, pour moi, c'est une très grande victoire. Parce que la République En Marche a réussi à réinstaller le Rassemblement National comme son principal opposant. Et il faut comprendre que si nous restons dans cette configuration jusqu'en 2022, Emmanuel Macron sera réélu. On aura le même résultat qu'en 2017, peut-être dans des proportions moindres, peut-être que le Rassemblement National fera un score plus important, mais la victoire lui est acquise. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron sait qu'il ne gouverne pas pour tous les Français. Il gouverne pour une minorité d'entre eux, c'est-à-dire, on va dire, les plus aisés, les plus diplômés, ceux qui habitent dans les grandes villes intégrées à la mondialisation libérale. Donc il sait qu'il ne pourra pas être réélu sur son bilan devant l'ensemble des Français. Et que sa seule chance d'être réélu, c'est de se retrouver face au Rassemblement National, qui est un adversaire qui, pour des raisons sociologiques très profondes, est incapable et sera toujours incapable de remporter le second tour d'une élection présidentielle. Et là, je terminerai juste sur ce point-là, je dirais, nous voyons à quel point le Rassemblement National joue un rôle extrêmement néfaste en ce qu'il paralyse complètement le jeu politique français et qu'il est un agent de perpétuation du pouvoir en place.
Alors, justement, pour revenir sur ce que vous disiez sur le Rassemblement National, vous êtes persuadé que c'est un parti qui ne souhaite pas accéder au pouvoir. On a des exemples concrets autour de... Voilà, on disait que les populistes... ça dépend la signification qu'on donne au terme populiste, mais n'accéderait jamais au pouvoir, ou en tout cas que voilà, c'est un épouvantail pour faire un petit peu peur et pour permettre à d'autres d'être élus. Mais récemment, ça s'est vu en Italie, ça s'est vu, bon, c'est peut-être un contexte différent en Hongrie, ça s'est vu dans d'autres pays européens. Finalement, les populistes arrivent au pouvoir. Alors pourquoi pas en France ?
Alors moi je ne dis pas. Alors je ne sais pas si les gens du Rassemblement National veulent ou pas accéder au pouvoir. Ça je n'en sais rien. Je ne sonde pas les reins et les cœurs, mais je pense que le point important,
c'est ce qu'on disait sur Jean-Marie Le Pen. Voilà, que clairement il ne veut pas arriver au pouvoir.
C'est que même s'il le voulait, il ne le pourrait pas. Mmh. Et par la comparaison avec l'Italie, effectivement, on peut comparer la situation italienne et la situation française. Il y a beaucoup de points sur lesquels on peut les comparer. Mais en France, l'élection présidentielle est une élection à deux tours. Donc en fait, elle incite forcément au bipartisme. Et le problème, c'est que le Rassemblement National, à la fois il agrège une partie du mécontentement, mais il est aussi un repoussoir pour une partie de l'électorat qui est un électorat lui aussi pourtant mécontent. Et en fait, le Rassemblement National ne peut pas réaliser cette union qui serait pourtant salutaire. Voilà.
Ah, effectivement, parce que vous parliez, on a beaucoup entendu parler dans les médias de défaite. Bon, le Rassemblement National, cette bonne guerre, a dit que le parti présidentiel avait été sanctionné, largement sanctionné. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, puisque l'erreur, je pense, stratégique qui a été faite par Emmanuel Macron ou pas, c'est d'avoir dit que c'était un face-à-face entre La République En Marche et le Rassemblement National, et que comme il est arrivé en seconde position, c'est considéré comme une défaite. Mais par rapport à un gouvernement qui a plutôt été chahuté ces derniers temps dans un contexte difficile pour ce gouvernement. Faire plus de 20%, c'est plutôt une voilà, c'est plutôt assez rare. Il faut comparer ça avec les partis qui étaient au pouvoir et qui ont réalisé des scores dans les précédentes européennes beaucoup plus faibles que celui de la République en marche. On va parler maintenant, si vous le voulez bien, Tuan Nguyen, d'un parti. Deux partis, plusieurs partis, qui ont beaucoup perdu dans ces élections. On va commencer avec les Républicains, certainement le parti qui a le plus perdu dans ces élections. Alors pourquoi un pourcentage selon vous si faible et quelles conséquences pour les Républicains ? Est-ce que c'est la fin est-ce que c'est la fin de la récréation pour les est-ce que c'est la fin du jeu comme on dit pour les Républicains ?
Alors les Républicains, c'est très intéressant parce que leur effondrement démontre une chose, c'est l'échec de la stratégie de ce qu'on a appelé l'union des droites. Parce que ça fait 2 ans, depuis l'élection présidentielle, que les partisans de l'union des droites nous expliquent que pour vaincre Macron, il faut réussir à faire converger l'électorat populaire et l'électorat, ce qu'ils appellent l'électorat conservateur. C'est-à-dire, comme je l'ai beaucoup entendu, faire converger, en gros, les gilets jaunes et la manif pour tous.
Or, ce qui semble compliqué.
Voilà, ça paraît très compliqué parce que ce à quoi nous avons assisté lors de ces élections européennes, c'est à, en fait, une érosion du bloc de droite, qui représentait au moment de la présidentielle, il y a 2 ans, 45% des suffrages exprimés, et qui n'en représente aujourd'hui, malgré l'abstention, etc., plus que 35%. Et en réalité, même si l'électorat de La République En Marche ne représente qu'environ 20 à 25%, c'est-à-dire moins, Macron aura toujours la possibilité de mobiliser l'électorat sur sa gauche pour faire barrage à une coalition de droite. Et l'erreur, en réalité, de ceux qui ont prôné l'union des droites depuis 2 ans, leur erreur, c'est qu'ils n'ont pas compris que l'électorat conservateur, ce qu'ils appellent l'électorat conservateur, est un électorat bourgeois et un électorat rentier, et qui est donc, par conséquent, Macron compatible. Et là, on touche à un problème qui est plus profond. C'est que le conservatisme français, même s'il peut adresser des critiques qui sont intéressantes et pertinentes, disons, à l'encontre de la face sociétale du libéralisme, ce conservatisme, il est principalement porté par des figures intellectuelles et par un électorat qui est, disons, plutôt issu des classes supérieures. Un électorat, lequel électorat fera toujours prévaloir ses intérêts de classe sur ses convictions sociétales. Et pour conclure sur les Républicains, je dirais que les partisans de l'union des droites viennent de découvrir, avec la déconvenue des Républicains, ils viennent en réalité de découvrir la réalité de l'existence, finalement, d'une nouvelle forme de lutte des classes.
Alors justement, parce que vous disiez à l'instant par rapport aux Républicains, une sortie qui a été plutôt commentée, celle de Maréchal Le Pen, qui en appelle à une union entre le Rassemblement National. Et elle ne dit pas tout de suite le parti Les Républicains, elle dit « et les Républicains patriotes qui souhaiteraient rejoindre le mouvement » puisque pour elle, évidemment, les Républicains sont morts.
Oui, elle reste sclérosée sur le schéma d'union des droites.
Exactement.
Et faire l'union avec un parti qui est en train de s'effondrer, ça prouve qu'à mon avis, elle n'a pas tout compris.
Second parti en difficulté pendant ces élections européennes, c'est La France Insoumise, qui était représentée par Manon Aubry, là aussi score très décevant par rapport à tout ce qui avait été agrégé en termes de voix pendant les précédentes présidentielles.
Oui, tout à fait. Alors,
ils n'ont même pas passé 7%.
Alors, sur la France Insoumise, c'est poussière. Sur la France Insoumise, je me souviens après le premier tour de la présidentielle, il y a 2 ans, il y a un billet qui était sorti et dont le titre était intéressant. Le titre, c'était « Mélenchon, 2 points, trop de bobos, pas assez de prolos ». Et je trouvais le titre de cet article très évocateur, car il soulignait bien la dualité de l'électorat de la France Insoumise. C'est-à-dire que l'électorat de la France Insoumise se partage entre, d'une part, un électorat populaire, et d'autre part, disons, un électorat bourgeois, ou du moins un électorat de classe moyenne. Et ces deux électorats n'ont pas les mêmes intérêts, ni les mêmes aspirations. Et partant de là, après la présidentielle de 2017, Mélenchon avait le choix. Soit il essayait de devenir, disons, le premier chez les populistes, soit il essayait de devenir le premier au sein de la gauche. Il a choisi la seconde option et il s'est fait doubler par Europe Écologie Les Verts et par Yannick Jadot, qui était mieux positionné que lui sur ce créneau. Donc Mélenchon, ce qui s'est passé, c'est que Mélenchon a perdu son électorat populaire, qui s'est réfugié dans l'abstention. Et les enquêtes d'opinion, notamment une enquête d'opinion d'Ipsos, démontrent que les sympathisants de la France Insoumise sont ceux qui se sont proportionnellement le plus abstenus durant cette élection. Donc d'une part, il a perdu cet électorat-là. Et l'autre électorat, l'électorat bourgeois ou de classe moyenne, lui, a rejoint Europe Écologie Les Verts. Et c'est par ce double mouvement qu'on peut expliquer l'effondrement de la France Insoumise.
Alors, est-ce qu'on peut dire, puisque une majeure partie de son électorat, de l'électorat de la France Insoumise, s'est abstenu, est-ce que finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, pour la France Insoumise? Ça veut dire qu'il reste quand même quelques personnes qui se sont pas déplacées pour ces élections, en pensant peut-être que c'était pas très important, c'est les européennes, voilà, ils n'y voient pas d'intérêt, mais que quand même la base électorale de la France Insoumise reste quand même importante.
Alors, non, vous voyez, je pense que là, pour la France Insoumise, c'est terminé. Je pense que le parti en tant que tel, son appareil est terminé, parce que Mélenchon a fait un choix, il a choisi la gauche, et il n'y a plus d'hommes, en fait, pour incarner une ligne, disons, une ligne populiste. Il ne reste plus que des gens qui veulent l'union des gauches. Donc je pense que ce parti est voué à disparaître. Par contre, effectivement, c'est une bonne chose, pas pour Mélenchon ni pour la France Insoumise, mais je dirais que c'est plutôt une bonne chose pour le camp populiste, parce que Mélenchon a libéré l'espace populiste à gauche. Donc effectivement, il reste maintenant à aller récupérer cet électorat populaire, qui, pour l'instant, est abstentionniste.
Qu'en est-il pour les Verts, alors qu'ils prennent une troisième place inattendue? Vous pensez, vous, que ce sera une percée plutôt éphémère? Alors d'ailleurs, ce qui est assez cocasse, c'est que le pourcentage qui est fait par les Verts, qui est de 12 ou 13%, est beaucoup moindre que celui qui avait été fait déjà par Daniel Cohen-Bendit il y a deux, pas l'élection précédente, mais l'élection d'avant, où l'Europe Écologie Verts était montée à plus de 16%, je crois, de voix. Oui. En tout cas, c'est présenté comme un raz-de-marée qui n'était pas prévu par, par les sondeurs.
Europe Écologie Les Verts, je dirais qu'ils ont récupéré une partie de l'ancien électorat du Parti Socialiste. Et ils occupent en fait un espace électoral qui a été temporairement libéré par Emmanuel Macron sur sa gauche.
Vous dites temporairement?
Oui, temporairement. Parce que Emmanuel Macron s'est fait élire au centre-gauche en 2017, ce qui avait permis à ce moment-là à François Fillon d'exister un tout petit peu durant la présidentielle. Et ensuite, durant les deux années qui ont suivi son élection, il a gouverné au centre droit. C'est ce qui explique maintenant l'effondrement des Républicains et une percée relative d'Europe Écologie Les Verts. Mais effectivement, je pense que les Verts occupent un espace qui est artificiel et qui est éphémère et qui a vocation à terme à être aspiré par La République En Marche. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de différence idéologique et sociologique profonde entre l'électorat d'Europe Écologie Les Verts et l'électorat d'En Marche. Les médias ont beaucoup dit que les jeunes avaient voté.
Oui, que beaucoup de jeunes avaient
voté.
Pour 10% des jeunes, à peu près.
Pour Europe Écologie Les Verts. En réalité, ce ne sont pas tous les jeunes. Ce sont plutôt les jeunes des classes supérieures et, disons, des classes moyennes supérieures. Et si je voulais employer une image, je dirais que les électeurs d'Europe Écologie Les Verts sont les enfants des électeurs de La République En Marche et qu'ils ont vocation à terme à rejoindre leurs parents et même leurs grands-parents, puisqu'on peut même dire leurs grands-parents maintenant que l'électorat retraité des Républicains est venu grossir les rangs de l'électorat de La République En Marche. Et ils le feront, par exemple, à l'occasion d'un appel d'Emmanuel Macron, par exemple, à faire barrage au Rassemblement National au second tour de l'élection présidentielle en 2022.
Ce qui sous-entendrait que les grands-parents, comme vous le disiez à l'instant, qui étaient républicains, percevraient La République En Marche comme un parti politique de centre-droit.
Oui, mais d'ailleurs, cette union, c'est ce qui s'est passé en 2017, puisque Macron a ratissé à l'électorat du centre-gauche au premier tour, et puis au second tour, on a vu François Fillon, c'est-à-dire l'électorat de François Fillon se porter sur Emmanuel Macron à 50%, et on a vu l'électorat de Benoît Hamon, Benoît Hamon a clairement appelé, lui, à voter pour Emmanuel Macron, François Fillon aussi. Donc en fait, on a déjà vu cette union. Et simplement, elle, pour l'instant, si on reste dans cette configuration-là, elle va tout simplement se reproduire en 2022. C'est vraiment trois générations, disons, des classes supérieures intégrées à la mondialisation. C'est-à-dire, vous avez les Républicains, c'est les grands-parents. Vous avez La République En Marche, ce sont les parents. Et vous avez Europe Écologie Les Verts, ce sont les enfants et les petits-enfants de cette classe-là.
Même si en termes d'idéologie, il y a quelques différences quand même, quelques nuances peut-être entre Écologie Les Verts qui est plutôt caché à gauche, voire très à gauche pour certains, contrairement aux Républicains qui sont plutôt...
Ce sont des étiquettes qui vont disparaître, parce que je pense que, et ce sera peut-être le dernier point de mon intervention, c'est que je pense que le clivage gauche-droite est mort. Je pense qu'il est mort. Je pense que nous allons assister. Nous sommes à un instant, à un moment charnière. Nous allons en fait assister à la fin du clivage gauche-droite et nous allons voir s'installer un autre clivage qui va perdurer peut-être pour les prochaines décennies, peut-être même pour le siècle.
Mondialiste contre nationaliste, vous diriez, comme ça a été présenté par.
Oui, on peut employer plusieurs termes. Je dirais oui. Macron, je pense, a raison sur ce point-là. Je pense qu'effectivement, le nouveau clivage se situe, disons, entre ce qu'il appelle les mondialistes et ce qu'on pourrait appeler. Moi, j'emploierais le terme populiste.
Alors, pour vous, je ne sais pas comment vous définiriez en termes politiques, mais est-ce que vous avez déjà envisagé, réfléchi à une sortie de cette nouvelle dualité qui s'est créée entre Rassemblement National d'une part, ou si vous voulez populiste, comme vous voulez le dire, et mondialiste. Où est-ce que vous vous situez, vous, politiquement dans ce...
Alors, moi, je me situe politiquement, je le dirais pas, mais je pense que les gens peuvent le deviner s'ils m'écoutent. Alors, moi, je dirais que la seule équation pour vaincre Macron, c'est de réussir à constituer le reflet inversé de ce que représente la République en marche.
C'est-à-dire
que de la même manière que Macron a fait sauter le clivage gauche-droite par le haut, il faut réussir à faire voler en éclats ce clivage par le bas. C'est-à-dire qu'il faut réussir à traduire dans les urnes la dynamique qui s'est produite durant, disons, les premières semaines du mouvement des Gilets jaunes. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire l'union entre la partie de l'électorat populaire qui, pour l'instant, s'est réfugiée dans l'abstention et celle qui, pour le moment, hélas, est neutralisée par le Rassemblement national. Et celui qui réussira à réaliser cette union et à conduire ce bloc populaire vers un affrontement électoral dans les urnes, j'entends, avec le bloc bourgeois qui est pour l'instant incarné par Emmanuel Macron et par La République En Marche, celui qui réussira à faire ça sera, je pense, l'homme providentiel.
Ou la femme peut-être.
Ou la femme providentielle. J'ai employé le terme homme
dans
mais un non genre.
Dans le sens global.
Bien sûr.
On va terminer avec les infos pratiques, si vous le voulez bien, Tantan Nguyen, pour la conférence du vendredi 28 juin, donc à 19h, sur le thème des leçons de la crise catalane avec Christophe Barré. Pour celles et ceux qui souhaiteraient participer à cette rencontre débat, comment ça se passe concrètement?
Alors, c'est
réservé. Est-ce qu'il faut? Ouais.
Alors, vous pouvez nous envoyer un mail si vous voulez. Vous le trouverez sur notre page Facebook pour annoncer votre venue, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez venir comme ça. Il y aura, je pense, de la place. Mmh. Donc ça se passe au Marina, le bar restaurant Le Marina, qui se situe à Montigny-le-Bretonneux. Mmh. La conférence a lieu, donc, comme vous l'avez dit, à 19h, et ce sera au premier étage. Et voilà, donc vous êtes les bienvenus.
Merci.
Merci à vous.
Voilà, donc grand merci à Tantan Nguyen sur le 88.4. Marmite FM, bien sûr, il est 17h passé de 42 minutes. Tout de suite, le Flash Actu. Othmane Nasrou est candidat pour les municipales 2020 à Trappes. Le chef de file du groupe d'opposition municipale Trappes Citoyens l'a annoncé le 6 juin dernier. Othmane Nasrou lancera sa campagne lors d'une réunion publique mercredi 19 juin à 19h à la maison des familles rue Janzet à Trappes. Le bureau annexe de La Poste situé rue Pierre-Sémard va fermer en cause la baisse de la fréquentation selon La Poste. Une fermeture qui ne devrait pas intervenir avant 2020. En réponse à cette annonce, la ville de Trappes a annoncé qu'elle ouvrira un relais de poste dans le futur café culturel. L'Étoile d'Or, rue Jean Jaurès, à quelques mètres du bureau de poste. Pour les Jeux Olympiques 2024, seuls 2 projets sur 7 restent désormais à départager pour l'aménagement de la colline d'Elancourt. Le Sky Dome et le Panorama 360 degrés. C'est Thierry Michel, premier adjoint à la mairie d'Elancourt, qui a révélé les 2 lauréats dans une tribune du journal municipal de la ville. De son côté, le collectif des Amis de la Revanche dénonce la surdité des pouvoirs publics et le manque de transparence sur la dangerosité des substances qui seraient relâchées en cas de travaux. Que cette colline reste à l'état naturel. Allez, on va marquer une dernière pause musicale avant de retrouver l'agenda culturel de Shaima et la chronique consommation responsable. À tout de suite. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Do you like to? Do you wanna do you like to? Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h. La petite rediffusion pour les retardataires, c'est le vendredi de 17h à 18h. Et dès le jeudi, bah, vous pouvez retrouver bien sûr l'émission en libre écoute et en téléchargement sur le podcast de la radio marmitefm.canalblog.com. Allez, tout de suite, on donne la parole à Shaïma qui nous a sélectionné voilà, quelques petits rendez-vous culturels et sportifs pour la fin de semaine à Saint-Quentin-en-Yvelines. Salut Shaïma.
Salut à tous.
Ça va?
J'espère très bien, et toi?
Ouais, ça va, merci. Alors, que tu espères quoi?
Merci.
J'arrête pas de te couper.
Que j'espère que ça va plaire à nos auditeurs, voilà.
Okay.
J'essaie de faire un mélange de plusieurs choses.
Ok, bon, on t'écoute.
Alors, pour commencer cette semaine, je vous propose une exposition qui a pour thématique un regard sur l'Inde. À vrai dire, c'est mon coup de cœur de la semaine, car en fait, il s'agit de plusieurs photographies que l'association Les Enfants de Calcutta et du Monde ont réalisées à travers diverses missions qu'ils ont faites, voilà, durant leur voyage. Mmh. Cette association est fondée il y a 15 ans par Janine Walter. Elle a pour but d'aider les enfants de la rue de Calcutta. Elle offre aujourd'hui à plus de 350 enfants, la plupart issus de milieux de la prostitution, un toit et un accès à l'éducation dans l'un des principaux orphelinats, créés notamment celui de New Hope, New Life. Dans cette optique d'échange et de partage, le projet solidaire mené par 8 étudiants de deuxième année de médecine de la faculté de Simone Veil de l'UVSQ de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais aussi en partenariat avec POEM Paris Ouest étudiants médecine et solidarité, est né. Si vous souhaitez voir cette magnifique exposition, rendez-vous à la bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, 45 Boulevard Vauban, 78-280 Guyancourt. Faites vite parce que l'exposition va se terminer le 30 juin prochain, malheureusement. Alors, on parle souvent de bio. Le bio est devenu maintenant un sujet incontournable de nos jours. Mais depuis peu, des AMAP saint-quentinois voient le jour grâce à ses habitants. En effet, jeudi dernier, à 19h pétante, devant la paroisse Saint-Martin à Magny-les-Amaux, une nouvelle AMAP a vu le jour. Le but est de nouer un solide échange, et un solide lien d'ailleurs, entre les agriculteurs locaux qui produisent principalement des produits bio, ainsi que nos Saint-Quentinois. Les produits proposés varient bien évidemment des saisons, mais on peut y retrouver du pain, des fruits, des légumes, des œufs, du poulet, du miel, à des rythmes variables. Si vous voulez rejoindre la communauté amapienne de Magny-les-Amaux, sachez que les produits sont livrés chaque jeudi de 19h à 20h à la salle face à l'église de Saint-Martin. On y vient bien évidemment avec son sac, son cabas. Le panier entier coûte 22€ et un demi-panier coûte seulement 11€. Sachez que dans chaque grande ville de notre agglomération, il y a une AMAP. Pour plus de renseignements, il faudra consulter le site internet de votre mairie. Voilà. Restons sur notre notion de bien-être. Cette fois-ci, je vous propose un rendez-vous qui va vous aider à gérer votre stress. C'est le rendez-vous incontournable de la semaine qui va aider non seulement nos futurs bacheliers qui sont en pleine période de révision.
Qui sont en plein stress.
Ouais. Voilà, exactement. Et pas que aussi pour les personnes qui sont victimes d'insomnie ou autre, à gérer leur stress. Ce samedi 15 juin de 10h à 18h30 à la médiathèque du canal de Montigny-le-Bretonneux, il y a un atelier collectif bien-être animé par mesdames Urto et Tiongan, psychopédagogues et sophrologues de l'association Agor Transition Maison et Savoir. Elles vous apprendront à identifier, prévenir ainsi que gérer votre stress. Alors faites vite parce qu'un groupe de 12 personnes pourra assister à cet atelier gratuit. Dépêchez-vous de vous inscrire auprès de la médiathèque du canal au 01 30 96 96 00. Alors, Doradine nous a parlé tout à l'heure des événements sportifs. Vous l'aurez compris que notre agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est l'hôte d'incontournables championnats. Le dernier en date est le championnat du monde de BMX, organisé au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais cette fois-ci, je vais vous parler d'un championnat régional, d'un sport assez surprenant. Il s'agit du kayak polo, organisé par notre agglomération ainsi que le département des Yvelines et de l'Île-de-France. Elle mettra en compétition 8 villes, dont Trappes, ce dimanche 16 juin de 9h30 à 16h à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'entrée est gratuite seulement si vous venez à pied et à vélo. On va terminer cet agenda culturel avec ce que je qualifierais du spectacle du mois. Je vous dis ça parce que c'est mon coup de cœur du mois. Une heureuse occasion, c'est le nom d'une pièce écrite par Afra Ben, l'une des premières autrices anglaises. Dans le cadre du projet consacré à matrimoine, héritage culturel de nos mères, l'atelier amateur de la ferme de Béléba, créé pour la toute première fois en France, cette comédie haut en couleur datant de 1686. Cette comédie est une satire mordante des mariages forcés et de la société de son temps. Les femmes y expriment tous leurs désirs et aspirent à des amours fondés sur la constance. Les personnages revendiquent le droit de vivre pleinement, librement. Les hommes y sont quant à eux décrits comme des créatures faibles et perverses, qui de chasseurs deviennent chassés et font même parfois l'objet de la pitié féminine. La représentation aura lieu le samedi 29 juin à 20h30 à la ferme de Belle et Bas à Guyancourt. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter leur site internet www.lafermedebellebas.fr.
Merci Shaïma. Alors tu en as parlé hein, à l'instant, tu as parlé de bio justement et voilà, oui. En disant que c'est un truc incontournable. Bah, Chloé qui nous fait la différence là entre deux bio, le bio qu'on retrouve dans les grandes surfaces, hein, donc l'industriel, et le bio artisanal. On écoute Chloé.
Marmite FM présente la chronique consommation responsable et développement durable avec Chloé.
Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien en ce dernier mercredi de mai et à la veille d'un grand week-end pour beaucoup, je l'espère. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous reparler du bio. En effet, à l'heure où l'écologie est partout et indispensable, il faut revenir sur le sujet du bio car les produits bio sont maintenant présents partout dans les supermarchés. Et il est important de dire que toutes les filières bio ne se valent pas. En effet, lorsque le bio se définit comme un projet global, le bio-industriel tente de s'emparer du marché. Tout d'abord, qu'est-ce que le bio ? L'agriculture biologique est née d'une multitude d'initiatives. Agronomes, médecins, agriculteurs et consommateurs ont simultanément, dans les années 1920, et oui déjà, généré de nouveaux courants de pensée reposant sur des principes éthiques et écologiques. Ils ont initié un mode alternatif de production agricole privilégiant l'humus, l'autonomie et les équilibres naturels. L'agriculture biologique est avant tout un mode de production agricole spécifique, c'est-à-dire un ensemble de pratiques agricoles respectueuses des équilibres écologiques et de l'autonomie des agriculteurs. Elle s'appuie sur une observation soignée des cultures et des animaux, sur la mise en œuvre de techniques modernes et innovantes et sur une approche globale de l'activité agricole. L'agriculture biologique, c'est aussi un mouvement. C'est une réponse aux attentes de la société en matière de santé et d'environnement, une proposition de changement pour le reste de l'agriculture et enfin la recherche d'une cohérence et d'un équilibre global de la parcelle cultivée jusqu'à la planète entière. Tout ceci est important à rappeler car, comme le dit Claude Gruffat, ancien président du réseau Biocoop, le modèle de la grande distribution est incompatible avec le bio. Et oui. Pourtant, le bio de la grande distribution détient 45% des parts de marché contre 37% pour les filières spécialisées comme les différents magasins spécialisés dans le bio et 18% pour les circuits courts comme les AMAP et les ventes directes à la ferme. De plus en plus de voix s'élèvent chez les petits producteurs, militants et consommateurs pour dénoncer les industriels qui se lancent dans la vente de produits biologiques. Alors vous allez me dire, ah bah oui, non mais alors on nous dit de manger bio et puis là on dit que bah non. Oui, mais en fait parce que les industriels se lancent dans la vente de produits biologiques au détriment des valeurs paysannes, qui sont le respect de la nature, la solidarité entre producteurs, l'autonomie alimentaire, la diversité des cultures et des élevages. Je vous explique. Les grandes enseignes de supermarchés revendiquent le fait de mettre à la portée de tous l'alimentation bio. Mais les professionnels engagés, en fait, critiquent le manque de cohérence entre le bio-industriel et ses critères sociaux et environnementaux. En effet, de nombreux produits bio dans les supermarchés proviennent de l'étranger et ont parfois dû effectuer quelques milliers de kilomètres en avion, ce qui n'est bien sûr pas cohérent sur un plan environnemental, mais aussi social, parce qu'en général, ils sont produits par des gens très peu payés à l'étranger. Le fait de proposer des produits bio qui ne sont pas de saison va également contre l'éthique. De plus, le label bio européen a assoupli ses critères depuis sa création en autorisant notamment 0,9% d'OGM dans les produits bio, des traitements médicamenteux et la mixité bio et non bio sur les mêmes exploitations. Si on s'en tient aux normes fixées par le cahier des charges européen, des projets de très grande envergure en bio, peu soucieux des normes environnementales et sociales, pourraient en effet voir le jour. Les défenseurs de l'agriculture paysanne et locale s'inquiètent ainsi de voir à terme les procédés de l'agriculture conventionnelle appliqués au bio, c'est-à-dire la mécanisation accrue de la production et la standardisation des produits. Les industriels n'ont que faire de la diversité du goût et de la production artisanale. Il est sûr que faire appel à des travailleurs à l'étranger permet de baisser le prix des produits bio. Mais dans ces conditions, on tord le concept de prix juste, ce qui est le principe du bio. Car le prix juste bio suit les principes en fait du commerce équitable et de l'économie sociale et solidaire. Ainsi, décidés à réagir, les différents acteurs du bio se regroupent de plus en plus pour anticiper la concurrence des filières industrielles. Ils ont bien compris le risque de la pression sur les prix. Et dans ce cadre, la FNAB a décidé de renforcer les critères de la bio en créant un nouveau cahier des charges français, Biocohérence, qui s'ajoute à la réglementation européenne et renforce ses critères. Il garantit une nourriture 100% bio, culture et élevage confondus. Il interdit les OGM ainsi que l'élevage hors sol et privilégie la vente directe. Ce qui veut dire que la vigilance du consommateur est essentielle et il faut donc garder l'esprit critique lors de vos achats en choisissant des produits, comme je vous l'ai toujours dit, de saison, bio et locaux. Je vous laisse sur cette réflexion. Soyez exigeants et actifs. Bon après-midi sur Marmite FM et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Chloé. Allez, je vous donne une dernière petite information pour terminer. Le championnat intercollège de match d'improvisation théâtrale, donc édition 2019, les demi-finales et la finale, c'est ce vendredi, donc le 14 juin, 20h30 à la Meurice de Trappes. N'hésitez pas à vous rendre sur le site déclicteatre.net, déclicteatre.net ou sur les réseaux sociaux en tapant Déclic Théâtre pour réserver. Alors la première demi-finale, la Maro Soul de Coignières, le collège de la Maro Soul rencontrera le collège du village de Trappes, et dans la deuxième demi-finale, finale, le collège Alexandre Dumas de Maurepas rencontrera le collège des Prés de Montigny-le-Bretonneux, donc ce vendredi à 20h30. N'hésitez pas, c'est à la Meurice de Trappes, des petites scénettes qui vous seront jouées par les jeunes cinquantinois, les jeunes cinquantinoises et les jeunes cinquantinois. Donc n'hésitez pas à venir les encourager. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette émission de Marmite fait son actu. Je vous laisse avec Jean-François, le temps ne fait rien à l'affaire. Ce soir, c'est Julien avec son émission L'Anti-Sèche à 20h pétante. Ils recevront l'artiste Scal et à 21h, en partenariat avec Yveline Radio, Gilles de l'émission Parlons Sport vous proposera une spéciale avec ses chroniqueuses et chroniqueurs pour commenter le deuxième match de l'équipe de France féminine pour la Coupe du Monde. Donc n'hésitez pas ce soir à 21h sur le 88.4. Merci et à la semaine prochaine.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite et son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.